Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Consommer moins et autrement pour vivre mieux et plus longtemps, une utopie, un doux rêve de changement ou une possible réalité? Pourquoi consomme-t-on? La consommation nous apporte-t-elle le bonheur? Au-delà de ces questions philosophiques essentielles, la motivation première du changement et de la démarche de transition se situe sûrement plus dans la satisfaction de besoins vitaux, car notre propre survie semble en dépendre. Malgré ce constat, la surconsommation généralisée des ressources naturelles de la Terre se transforme en dette environnementale aux conséquences multiples pour la vie humaine. Alors faire sa part pour essayer de sauver les meubles, est-ce possible et réellement utile? Comment mobiliser ceux qui n'y croient pas du tout? Dans ce nouvel épisode des Écolonautes, nous ne pourrons pas répondre à toutes ces questions et éteindre toutes les angoisses naissantes ou déjà bien installées. L'idée est d'apporter des clés de compréhension et quelques solutions concrètes faciles à mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Le zéro déchet est peut-être le premier pas vers une démarche plus sobre de consommation et plus respectueuse de l'environnement. Mener sa transition écologique, c'est le programme mené par Edeni Pays de la Loire, proposé par Mathilde Bresse. Elle est notre invitée dans ce 7e épisode des Écolonautes. Chiffres, données et mises au point, le ping-pong des écolonautes avec Alexandre. Salut Alexandre.
Bonjour Lucie.
Pourquoi c'est problématique de trop consommer?
Nos modes de production et de consommation ne sont plus viables, et cela pour deux raisons. D'une part, on consomme trop de ressources naturelles chaque année par rapport à ce que la Terre peut régénérer. Et d'autre part, la production de biens matériels ou immatériels a un impact sur les milieux naturels et nos environnements plus immédiats. Cela à la fabrication, puisqu'on va consommer de l'énergie et donc probablement émettre des émissions de gaz à effet de serre, et émettre aussi également tout un tas de polluants dans l'air, l'eau ou le sol. Et on va retrouver des impacts à la fin de vie du bien, quand il deviendra un déchet. Ce dernier devra être éliminé ou mieux recyclé, mais ce qui n'est pas non plus sans avoir d'impact.
Alors comment on va mesurer la surconsommation de ces ressources naturelles? Quelles sont les dernières tendances, Alexandre?
Chaque année, l'ONG américaine Global Footprint Network calcule le jour de dépassement. C'est le jour où l'humanité a consommé autant de ressources que ce que la Terre peut régénérer en un an. Autrement dit, quand on passe cette date, l'humanité puiserait donc de manière irréversible dans les réserves non renouvelables de la Terre. En 1980, ce jour arrivait le 4 novembre, en 2000, c'est le 23 novembre, et en 2020, c'était courant août. Un léger recul par rapport à 2019, bien sûr, c'était lié à une situation exceptionnelle du Covid, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve en termes de relance économique et peut-être repartir dans des modèles consuméristes très forts.
Le jour de dépassement est donc globalement atteint chaque année à une date plus précoce. Est-ce que c'est juste de rester sur une approche planétaire, Alexandre? Est-ce qu'un Français y consomme autant qu'un Américain, finalement?
Eh bien non. Il est juste de rappeler que les pays les plus développés sont évidemment les principaux contributeurs de l'avancée régulière du jour de dépassement dans le calendrier. Si toute l'humanité consommait comme la France, le jour de dépassement serait début mai. Pour terminer avec ce jour de dépassement, signalons qu'il y a des débats passionnants entre experts sur la précision et l'exactitude de ces calculs. Si certains leur font des critiques, il n'en reste pas moins un concept montrant que l'humanité est une ogresse impossible à raisonner, du moins ces chiffres tendent à le montrer. Et rappelons également un fait, la population mondiale augmente, 7,8 milliards d'êtres humains en mars 2020 contre 2,5 milliards dans les années 1950. Et selon les projections, elle va continuer à croître.
Et à titre individuel, combien produit-on de déchets par an?
À l'échelle de Nantes Métropole, nous avons les chiffres. 214 kg d'ordures ménagères par habitant et par an pour l'année 2018.
C'est énorme.
C'est énorme, c'est 140 000 tonnes au global. Pour vous donner une idée, c'est 14 fois le poids de la Tour Eiffel. Pour les déchets recyclables, on arrive à en produire 48 kg par an. Ça fait à peu près 3 Tours Eiffel. Et on n'oublie pas non plus les déchets qui sont collectés en déchetterie. Ils représentent à eux 82 kg, soit 12 Tours Eiffel. Bon, beaucoup de chiffres. Si je résume, ça fait 30 Tours Eiffel de déchets produits collectivement chaque année.
On voit bien que cette situation, Alexandre, est complètement absurde. On ne peut plus continuer à consommer comme ça, mais il faut trouver des solutions et faire sa transition. C'est Mathilde Bresse aujourd'hui qui va nous éclairer sur le zéro déchet. Elle est mentor d'Edeni, Pays de la Loire. Refuser, réduire, réutiliser, recycler, composter, voici les préceptes d'une vie plus respectueuse de l'environnement. Ces 5 R peuvent d'ailleurs s'opposer aux 5 motivations secrètes de notre cerveau, expliquées dans le livre « Le bec humain » de Sébastien Boller. Manger, se reproduire, acquérir du pouvoir, le faire avec un minimum d'effort, églaner un maximum d'informations dans son environnement. Voici les motivations secrètes de notre cerveau. Bonjour Mathilde Bresse.
Bonjour.
D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire avec le zéro déchet? Comment c'est né et quelle est cette démarche, votre histoire avec cela?
Je pense que pour moi, ça a commencé avec mon installation à Nantes. Donc, c'était en 2015 et j'habitais dans un appartement où j'ai fait l'acquisition d'un lombricomposteur. Donc, le lombricomposteur, c'est un système de compostage qui peut être en appartement puisque c'est dans une boîte en fait fermée. Et on y met ses biodéchets, donc tout ce qui est épluchures, restes de repas, marre de café, de thé. C'est décomposé beaucoup plus rapidement que dans un compost par des petits lombrics. Et en réalité, ça fait une sacrée différence dans le nombre de fois où on descend la poubelle, puisque bah, on estime que c'est 30% des déchets d'une poubelle en moyenne qui sont des biodéchets. C'est une moyenne, donc ça peut être beaucoup plus. Donc on se retrouve finalement à descendre la poubelle moins souvent et puis à récupérer de l'engrais et un terreau aussi. Donc voilà, 2015, début de la démarche zéro déchet par cette initiative-là. Et puis ensuite, en fait, une fois qu'on a commencé, c'est difficile de revenir en arrière. Enfin, on ne remet pas les biodéchets dans le sac bleu avec d'autres déchets non compostables. Et puis on s'intéresse au reste de la poubelle, comment on peut réduire le reste aussi.
Et donc à propos du zéro déchet, on parle souvent des 5 R, c'est quoi au juste?
Donc les 5 R, c'est vrai que c'est important parce que c'est la méthode qu'on peut garder en tête quand on ne sait pas trop par où commencer. Donc le premier, c'est évidemment refuser. Le second, c'est autour de la réduction. Le troisième, c'est réutilisation, réparation. Donc c'est un double R, mais c'est dans l'idée d'être sur de la consommation qui ne soit pas des produits neufs en fait. Le quatrième, c'est le recyclage, le bien connu recyclage. Et le dernier, alors en anglais, c'est rot, donc c'est pourrir. En fait, c'est rendre à la terre. Mais moi, j'aime bien parler pour le dernier aussi de revendiquer. Je trouve que c'est un R qui est intéressant quand on a envie d'embarquer autour de soi et d'inspirer sur le zéro déchet. Même si le compostage, c'est très bien aussi.
On va prendre le temps de regarder ces 5 R. Et il y en a un qui est effectivement un des plus connus, hein, le quatrième R, le recyclage. Quel regard vous portez dans son utilité, dans cette place, dans cette hiérarchie des 5 R? Parce que trier ses déchets, c'est souvent en fait la star au pays des éco-gestes. On parle souvent de trier des déchets. Alors pourquoi ça se retrouve qu'en quatrième position?
Complètement. Et c'est vrai que, petite perso, je trouve que quand on se dit écolo parce qu'on trie ses déchets aujourd'hui, je pense que c'est vraiment plus suffisant. En fait, on n'en est plus là du tout. Pour plusieurs raisons, c'est que en fait, le recyclage, si on regarde les chiffres, en moyenne, ils ne sont pas très bons. Alors localement, on est peut-être un peu en avance à Nantes où il y a des initiatives. On est quand même hyper privilégié à Nantes, il y a des bonnes initiatives. Mais globalement, le recyclage, c'est énergivore, c'est pas toujours efficace. Et puis surtout, ça arrive à un moment où le produit a déjà été fait. Donc on a déjà dû extraire, l'acheminer. Et puis on va le réacheminer vers un centre de recyclage qui est plus loin. Quand c'est du verre, on va le réchauffer à 1000 degrés pendant plus de 12 heures, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais en gros, c'est très énergivore le recyclage. Donc dans la méthode zéro déchet, le credo qu'on garde toujours en tête, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas.
Et d'où refuser, réduire, réutiliser, réparer.
Voilà.
Avant le recyclage.
Oui, en fait, le recyclage, il a sa place. Évidemment, on va quand même recycler localement, mais moins on a à recycler, mieux c'est, parce que les infrastructures de recyclage, en fait, c'est un gros business, quoi. Donc... ça ne va pas trop avec l'objectif de sobriété et de diminuer l'impact qu'on a.
Et puis le recyclage, ça produit du CO2 aussi.
Ah bah oui, complètement. En fait, c'est énergivore. Et il y a un bon livre qui est sorti l'année dernière là-dessus que je vous recommande, qui s'appelle « Recyclage, le grand enfumage », qui a été écrit par l'ancienne directrice de l'ONG Zero Waste France, qui est d'ailleurs aussi une super ONG à découvrir avec un groupe local Zero Waste Nantes. Donc c'est un petit livre qui se lit facilement en 2 heures, qui est plein de chiffres, qui est très sourcé. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est souvent sourcé par des chiffres, des éco-organismes qui eux-mêmes, en fait, parfois admettent que toutes les solutions de recyclage ne sont pas aussi bien que ce qu'on l'imagine dans l'inconscient collectif et qu'en fait, les chiffres ne sont pas très bons. Donc c'est vraiment un très très bon livre à lire en 2 heures qui permet de se faire un peu son idée, sa propre idée sur le recyclage, c'est bien, mais c'est pas top.
D'accord, donc ne surtout pas réduire le zéro déchet à la question de recyclage. Est-ce que c'est compliqué de se lancer dans une démarche globale zéro déchet? D'après vous, par où commencer? Vous, ça a été un lombricompost, mais est-ce qu'il y a d'autres actions concrètes pour mettre le pied à l'étrier en particulier?
Ah bah oui, il y en a plein. En fait, je pense que le plus intéressant, c'est de regarder ce qu'on produit le plus comme déchets, déjà. Donc, c'est peut-être pas très glamour, mais quand même regarder sa poubelle et se dire que s'il y a un type de déchet qui revient régulièrement, bah, on va commencer par ça. Ce qui revient souvent, c'est les bouteilles en plastique. Donc, ce que je dis souvent, c'est que l'effet Pareto du zéro déchet, c'est de changer pour une gourde, en fait. Et si on est un gros consommateur de bouteilles plastiques, la gourde, ça fait déjà un super boost pour se lancer. Et puis après, vraiment, ça dépend de la conso, en fait. Mais commencer par quelque chose de facile et qui fait plaisir aussi, quoi. Tout le monde n'est peut-être pas fan du lombricomposteur en premier pas.
Quelle serait, passer cette première étape, des actions qui vous sembleraient un petit peu plus ambitieuses ou autres, ou qui finissent par s'enchaîner une fois qu'on a mis le pied à l'étrier?
Alors, le fait de faire ces courses en vrac, ça me paraît quand même assez important pour les déchets ménagers. Et à Nantes, on a énormément d'offres. Enfin, des épiceries zéro déchet, il y en a quand même dans quasiment tous les quartiers, j'imagine, maintenant. Il y en a aussi dans d'autres villes de l'agglo. Moi, j'adore Au Bocal, qui est en centre-ville, qui a deux boutiques aussi, où vous pouvez trouver alors, les produits alimentaires secs et puis aussi pouvoir vous équiper, trouver un kit de pique-nique, des sacs à vrac, des sacs à pain, des choses comme ça. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est l'ameublement. Parce que finalement, faire ses courses en vrac, c'est bien. Et puis après, décider d'acheter un canapé d'occasion, c'est hyper, hyper impactant aussi. Continuer à faire des choses qui font plaisir. Et puis faire des choses qui sont assez belles aussi. Enfin, vraiment, pas se dire que ça doit être un peu tristoun parce que c'est zéro déchet. Voilà, garder des beaux objets dans son intérieur. D'occasion, mais quand même beau.
Mathilde Bresse, vous avez parlé des épiceries zéro déchet. Il y a vraiment une belle offre à Nantes. C'est vrai que pour faire ses courses en vrac, c'est vraiment possible. Maintenant, d'un point de vue social, est-ce que c'est accessible à tous?
Alors après, quand on commence dans le zéro déchet, c'est vrai qu'on change pas mal d'aspects de sa vie. Pour répondre à la question alimentaire, ça implique aussi de passer peut-être d'un style de vie où on achète beaucoup de choses transformées à faire plus de cuisine soi-même, sans encore une fois que ça soit hyper chronophage, mais on peut faire des choses très simples et du coup se permettre d'acheter des produits peut-être un peu plus chers. Puis je pense qu'il faut voir aussi avec quoi on compare, parce qu'effectivement, quand on compare avec des supermarchés où les produits sont peut-être moins chers, c'est pas non plus la même qualité. Quand c'est pas du bio, on sait que les fruits et légumes, la qualité nutritionnelle, c'est pas la même, qu'ils tiennent moins bien à la cuisson, donc... Après, tout n'est pas accessible, mais je pense qu'il faut y aller par étapes aussi. Et en fait, quand on commence dans le zéro déchet, qu'on achète moins de bouteilles en plastique, par exemple, on dégage aussi du budget qu'ensuite on peut décider d'utiliser pour...
Pour autre chose.
Ouais. Ouais, voilà,
moi, je parlais plus d'une famille, 5 enfants, avec quelqu'un au chômage dans le couple, par exemple. Comment on fait vraiment? C'est un investissement de départ. Est-ce que c'est faisable vraiment qu'on a une toute petite bourse? Parce que c'est vrai que ce qu'on va répondre aujourd'hui, c'est oui, le bio, c'est bien, le zéro déchet, c'est bien, mais... Est-ce que aussi c'est accessible au plus grand nombre, à tous?
Je pense qu'il y a plein de super initiatives à Nantes pour manger bio de façon pas trop onéreuse, c'est-à-dire pas transformé en circuit court, frais, local. Enfin, il y a vraiment des paniers bio qui sont accessibles dans les quartiers plus populaires.
Les épiceries coopératives peut-être également?
Oui, voilà, il y a aussi les épiceries coopératives. Et ensuite, sur le côté s'équiper... Il y a aussi un autre principe de zéro déchet, c'est de faire avec ce qu'on a en fait. Donc c'est pas parce qu'on se lance dans le zéro déchet qu'on va tout réacheter en neuf. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà chez soi. Enfin, je parlais de faire des sacs à pain ou des choses toutes bêtes pour aller faire ses courses en vrac. En fait, les sacs à pain, on les fait avec le tissu qu'on a chez soi, quoi. Le but, c'est pas de retomber dans les travers de la surconsommation, quoi. On peut trouver des solutions. Tout le monde sera pas forcément sur les mêmes modes de consommation zéro déchet. Mais ça serait dommage que ça soit un frein de se dire qu'il faut forcément se rééquiper avec des choses très, très chères.
Et tout à fait, là on parle de l'alimentation, mais il est aussi possible de se fournir à moindre prix un certain nombre d'équipements dans des ressourceries, et il y en a aussi dans des quartiers, il n'y en a pas que forcément dans le centre-ville.
Mathilde Bresse, moi j'aimerais savoir, le féminisme dans tout ça, il est où au niveau du zéro déchet? Est-ce qu'on peut allier les deux?
J'espère qu'on peut allier les deux, clairement. Mais c'est un sujet sur lequel je pense qu'il faut qu'on soit vraiment vigilant, parce qu'effectivement, on voit souvent, la plupart du temps, en fait, le zéro déchet associé à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses soi-même. Et là aussi, il n'y a pas d'obligation, quoi. Il ne faut pas non plus mettre la pression pour être la parfaite femme zéro déchet qui fait qu'un bocal de déchets.
Donc, je fais tous ces produits ménagers. Ah ouais,
Ah non, mais là, c'est l'angoisse. Bah, c'est vrai que j'aimerais bien, moi, qu'il y ait plus de témoignages d'hommes engagés dans un mode de vie zéro déchet. Je pense que ça manque vraiment beaucoup. Et qu'il y ait plus de témoignages aussi, peut-être de personnes qui expliquent que bah, c'est pas grave, en fait, de pas faire du zéro déchet tout le temps, en fait. Et comme on disait tout à l'heure, ça a plus d'impact, peut-être, de se refournir en meubles entièrement sur le bon coin que de s'évertuer à faire un déodorant si c'est pas du tout notre truc. Donc... bah, on attend des témoignages d'hommes sur le zéro déchet.
Vous êtes fine connaisseuse de ces questions et également habitante de Nantes Métropole. Pour résumer, quel défi vous voyez pour faire progresser le zéro déchet ?
Je pense que ce dont on a discuté, là, les 5 R, c'est intéressant en fait, de commencer à se les appliquer petit à petit, à son rythme, sans culpabiliser, mais en se faisant plaisir et en gardant des choses qui ne sont pas zéro déchet. Hein, tout n'est pas parfait. Et après, au niveau collectif, ben, ce que j'entends beaucoup à Nantes, c'est la pénurie de lieux de compostage. En fait, ils sont tous quasi saturés et il y a plein d'autres offres. Il y a la tricyclerie, il y a Wivalo, il y a plein d'autres solutions. Mais en fait, le lieu de compostage de quartier, c'est tellement un lien social aussi que ça serait bien d'en mettre d'autres. Je crois que c'est dans les tuyaux, mais il va falloir accélérer là-dessus.
Mathilde Bresse, mentor du collectif Edeni, invité des Écolonautes pour ce 7e épisode. Les conseils de lecture des Écolonautes avec l'ouvrage de Sébastien Boller, Le bug humain. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher ? Alexandre, c'est un livre que tu as lu il n'y a pas très longtemps.
Exactement, et ça m'a passionné.
Ça parle de quoi alors ?
Du fonctionnement de cette boîte noire logée sous notre crâne. Si l'humanité est à un stade avancé de développement, c'est grâce à son cerveau. Le livre explique de manière très didactique pourquoi et comment nous en sommes arrivés là. Il explique aussi le fonctionnement de nos structures neuronales, nous poussant à vouloir toujours plus. Un drame pour notre environnement et pour nous au final.
En résumé, on apprend quoi ? Quelle est la thèse argumentée défendue par l'auteur ?
Notre cerveau, pour notre survie depuis l'aube des temps, nous récompense avec de la dopamine. Il nous pousse à acquérir un certain nombre de comportements qui nous permettent de survivre et de vivre tout simplement. Ces comportements, il y en a 5. Manger, se reproduire, acquérir du pouvoir, le faire avec un minimum d'effort, d'où notre quête perpétuelle de confort, et chercher des informations dans notre environnement. Ce qui nous encourage aujourd'hui à toujours consulter plus de médias numériques. Problème, c'est une source croissante et exponentielle de pollution. Pour finir, notre cerveau se lasse et cherche de la nouveauté en permanence. Cela le rend donc addict à avoir tout de suite le plus rapidement possible.
On est foutu alors ? Parce que ce constat, clairement, il n'est pas très réjouissant là.
Je te rassure, le cerveau est aussi capable de prendre en compte des enjeux de long terme et de se libérer de cette tyrannie de l'immédiateté. De nombreuses pistes sont évoquées dans le livre. Je vous invite vivement à le découvrir. Il se lit tout seul et cela vous aidera à comprendre les dilemmes se jouant dans nos comportements. Tout s'explique.
Comprendre les comportements, Alexandre, c'est bien, mais aussi trouver des solutions locales et concrètes, c'est aussi bien. Moi, je vous conseille Où acheter durable et solidaire à Nantes. 160 adresses engagées. Zéro déchet, bio, récup, vente directe, lien social et emploi local garanti. C'est Les Autres Possibles, le magazine Les Autres Possibles, qui ont édité ce guide. C'était en 2019. Et donc, il y a vraiment pléthore d'adresses hyper intéressantes. On vous avait fait découvrir dans Les Écolonautes au bocal, mais il y a plein d'épiceries en vrac. Je pense à Dose de Sens, il y a Day by Day également. On peut retrouver aussi Scopelli, le cellier d'Hélène si vous habitez du côté de Saint-Herblain. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'adresses pour manger solidaire, manger local, manger bio et réduire ses déchets. L'ensemble des épisodes des Écolonautes à retrouver sur le www.entreune.net.